17h-18h, les grands témoins avec Nasser Khétan sur Beurre FM.
Bonjour à toutes, merci de nous retrouver. Les grands témoins, grand témoin aujourd'hui avec Ali Amran. Bonjour Ali.
Bonjour Nasser.
Merci d'être parmi nous. Donc on va aborder la culture, la musique, l'Algérie, le Maghreb, la France, la Méditerranée et surtout le monde artistique et cette communauté formidable des artistes. Et on a aussi comme grand témoin Hugo Frey avec nous, qui va rendre hommage aussi à Johnny Hallyday qui vient de nous quitter. Enfin, il nous quitte, mais il est toujours là. Ali Amran, vous, Johnny Hallyday, ça vous parle? C'est quelque chose qui fait partie de votre patrimoine, quelque chose qui a influencé, sa disparition vous touche. C'est quoi tout de suite votre réaction par rapport à tout ce qui se passe autour de Johnny Hallyday?
La première pensée que j'ai eue, moi, quand j'ai entendu la nouvelle, c'était « Ah, donc il n'est pas éternel ». Parce que moi, Johnny, je connais Johnny depuis que j'étais gamin, et ça me rappelle, en fait, j'étais à Tizi Ouzou, il y avait un magasin de musique, le seul qu'il y avait à l'époque, il y avait deux photos à l'intérieur, une de Johnny et une... c'était qui l'autre artiste, l'autre chanteur français. Donc évidemment, il était là, Johnny, dans l'image, dans le...
C'est vrai que l'image de Johnny Hallyday est associée à l'éternité, c'est incroyable. On sait plus s'il est mort, s'il est vivant, il fait partie des meubles, il fait partie de notre imaginaire, et c'est vrai que c'est très intéressant ce que vous dites, cette notion d'éternité, on la retrouve pratiquement dans toutes les réactions des gens, quels qu'ils soient.
En ce qui me concerne, de toute façon, dès que j'ai commencé à écouter la musique ou à voir un petit peu des émissions de télé et tout ça artistique, il était là, Johnny, et il a été toujours là. Donc, évidemment, quand il part comme ça, on se dit, ah bon, finalement, tout le monde va partir, là. Ouais, c'est vrai.
Hugo Frey, bonjour.
Oui, bonjour.
Merci aussi d'être grand témoin parmi nous.
Oui, bon.
Vous, bien sûr, vous avez très très bien connu Johnny Hallyday.
Ouais.
Il a traversé les générations, les imaginaires, et votre première réaction?
Oui, ma réaction, c'est forcément, contrairement à ce que vient de dire votre jeune invité, c'est pour moi, Johnny, j'ai jamais pensé qu'il était éternel, parce que moi j'ai une vision de l'être humain tel qu'il est, c'est-à-dire que nous sommes de passage sur cette terre. Peut-être que après notre passage, il y a une autre vie, ça c'est autre chose, c'est un autre problème. Il est éternel pour moi dans la mesure où, comme je lui ai fait chanter, on a fait un duo ensemble d'une chanson dont j'ai écrit les paroles, c'est « Jeune pour toujours, jeune à jamais ». Et donc pour nous et pour tous ceux qui l'ont connu jeune, cette génération des copains, de l'idole des jeunes, tout ça, pour tous ces gens-là, il demeure jeune à jamais. À ce point de vue-là, il est éternel. Mais je savais très bien qu'un jour, son cœur s'arrêterait de battre, et que le nôtre, par chance, continue. Donc on va continuer à l'aimer, et donc c'est la façon de le rendre éternel. Voilà.
J'ai eu l'occasion, comme beaucoup de gens, d'aller le voir en spectacle, bien sûr, et notamment au Stade de France, et de l'idole des jeunes à allumer le feu. On voyait des grappes entières, on voyait des familles, on voyait des gamins, on voyait des enfants, on voyait des gens plus vieux. C'était familial, toutes les générations allaient le voir. C'était magique, c'est ce contact avec tout le monde, c'était transgénérationnel.
Ouais, moi je vois pas tout à fait ça comme ça.
Ouais.
C'est un peu contrariant en me disant. Moi je pense que le mot idole a été collé à Johnny, c'était parfaitement juste, mais c'est un mot, là je voyais dans le Figaro, ils disent la dernière idole. C'est pas Johnny n'est pas la dernière idole, il est le seul, la seule idole qu'il y a eu, parce que c'est une époque, cette époque, où les jeunes, l'idole des jeunes, ben ces jeunes, ils ont avancé en âge, grandi, et ils sont restés fidèles. Je suis pas sûr qu'ils soient intergénérationnels comme vous dites, parce que les enfants, je suis désolé de vous dire, les enfants ne chantaient pas à l'école, ne chantaient pas les chansons de Johnny. C'est leurs parents qui les chantaient. Donc il a fait un voyage, une carrière extraordinaire d'idole, effectivement, et donc il n'est pas la dernière idole, il est la seule idole qu'il y a eu, parce que des gens comme Brassens ou Charles Aznavour n'auraient pas envisagé de porter ce nom. Vous voyez, lui, il était capable sur ses épaules, il était tellement costaud, c'était un athlète. Un athlète, vous n'avez qu'à regarder les photos qu'on publie de lui, il est, on dirait un type qui fait un match.
Qui boxe en permanence.
En permanence. Ouais. Donc cet athlète, il pouvait porter tout. Et il a porté donc, au-delà de ses qualités de chanteur exceptionnel, puisqu'il avait une voix exceptionnelle, une santé exceptionnelle, il pouvait, avoir tous les excès, et Dieu sait s'il en a fait, mais il s'en est toujours sorti. Eh bien, il pouvait porter sur ses épaules ce nom d'idole, et demain, il va pouvoir aussi, je crois que cette descente aux Champs-Élysées est justifiée dans la mesure, c'est une démesure qui lui convient parfaitement, moi je ne suis pas du tout, c'est pas du tout les critiques que je fais, c'est au contraire des compliments, mais c'est un garçon qui avait une qualité, il était hyper professionnel. Et donc, ces gigantesques spectacles dans le grand stade, c'était à sa mesure, il pouvait les faire. Et c'est pour ça que un jour, vous connaissez l'anecdote, quand il est venu un jour chez moi, et que j'habitais à Marne-la-Coquette depuis 30 ans déjà, quand il est arrivé, il est devenu mon voisin. Et un jour, il est venu passer une soirée chez moi, et à un moment donné, il avait le blues, il s'est penché sur mon épaule et il pleurait. Je dis, pourquoi tu pleures? Il me dit, parce que j'ai raté ma vie. J'ai dit, mais comment tu peux dire une chose pareille? Il me dit, si. Mais je dis, pourquoi tu as raté ta vie? Il me dit, parce que je voulais être un grand comédien comme Humphrey Bogart. Je dis, écoute, tu es un très, très, très grand chanteur, tu es très aimé de tout le peuple.
Oui, mais ça c'est aussi, Hugues, c'est aussi la solitude des grands artistes. Souvent, on a l'impression qu'ils ont tout ce qu'ils veulent, mais finalement, ce sont des gens très seuls, des grands artistes, des grandes stars, ils se retrouvent tout seuls.
Il a ajouté, oh mais toi Hugues, toi tu es un artiste. Je dis, toi aussi t'es un artiste. Il me dit, non, moi je suis pas un artiste, je suis une star. Et il avait raison.
Cette affection que le peuple français, même au-delà de la France, lui donne, c'est aussi cette idée que c'est un enfant de la balle, c'est un enfant de la rue, enfin pas tout à fait de la rue, mais en tout cas de la balle. Il a pas eu de père vraiment, il a été transballoté, et tout le monde aurait envie d'adopter Johnny Hallyday. Enfin, il y a cette image aussi qui le véhicule.
Mais ce que vous dites, j'ajouterais quand même pour être précis que il n'a pas eu de père. Son père biologique l'a abandonné, sa mère aussi, mais il a quand même été élevé par sa tante et son oncle Lee Hallyday. Ouais. Et moi je crois qu'aujourd'hui, au moment de ce décès qui affecte tout le monde, il serait juste de dire que Johnny doit beaucoup, beaucoup, beaucoup à son oncle et à sa tante. Lee Hallyday était très attentif, et Johnny était sur scène à l'âge de 7 ans. Et je crois que aujourd'hui, le seul aujourd'hui à dire, je pense à Lee Hallyday. Je pense à sa tante qui adorait Johnny et qui ont vraiment éduqué. Vous dites enfant de la balle, c'est vrai. Ils l'ont beaucoup aidé. Et je trouve un peu dommage qu'aujourd'hui on ait oublié ces deux personnes qui ont été déterminantes dans sa carrière.
Alors Hugues, deux dernières petites questions. La communion générale, en particulier du monde politique, du monde artistique autour de Johnny, c'est conjoncturel ou c'est quelque chose de plus profond? Les gens sont vraiment sincères?
C'est un mélange. Il y a un mélange, vous savez. Là, les gens sont complètement submergés par cette disparition. C'est vrai que comme il occupait très souvent les premières pages de Gala, par image de Voici, tous ces journaux très populaires, son absence laisse effectivement tous ces journaux orphelins. Mais moi, c'est pas là que je veux retrouver Johnny. Moi, je veux retrouver Johnny dans ma mémoire, le type qui chantait, qui était dans sa catégorie absolument imbattable.
Alors, la dernière question sur le patrimoine, sur ce qu'il va laisser. Est-ce que ses chansons seront enseignées à l'école? Est-ce que à la manière des grands écrivains? Moi, je vois là dans les télévisions souvent. Parce qu'il va y avoir un hommage populaire qui va être lui être rendu. Ouais. On le compare à Victor Hugo, qui avait eu aussi. Au niveau du témoignage, au niveau de la façon dont les Français ont témoigné leur.
Oui, là, j'ai pas envie d'être sur ce terrain-là parce que je trouve que c'est pas honorer quelqu'un que d'abonder dans quelque chose qui est quand même une forme de dérive.
Est-ce que Johnny Hallyday va faire partie du patrimoine? Est-ce que on parle de Brassens, on parle de Ferrat, etc. Est-ce que il est rentré dans la mémoire et dans le roman français, je dirais? Est-ce que
je saurais pas vous dire la différence avec vous venez de citer Brassens qui écrivait ses textes et ses musiques. Johnny n'écrivait pas ses textes.
Il interprète.
Moi, je pense que c'est un champion, c'est comme un champion d'athlétisme, c'est un boxeur, c'est quelqu'un comme Marcel Cerdan. Marcel Cerdan est toujours présent dans le monde de la boxe, mais faut bien utiliser les mots, comme disait Camus, mal nommer les choses ajoute du malheur aux hommes. On peut pas comparer Victor Hugo à Johnny Hallyday, c'est pas une offense pour Johnny que quand je dis ça, au contraire. Lui, il revendique pas ça du tout. Il voulait être le meilleur dans sa catégorie et il l'a été. Donc, pour moi, bravo et salut le champion, quoi.
En tout cas, cette ferveur populaire, elle est là, elle est présente. Je pense qu'elle va encore demeurer longtemps. Merci mille fois, Hugues, d'avoir été notre grand témoin et d'avoir contribué, nous aider à rendre hommage à Jean-Philippe Smet, à Johnny Hallyday, qui, je crois, restera éternel, puisque Ali Amran, à l'instant, parlait d'éternité. Merci mille fois et à très bientôt, Hugues.
J'ai une petite chose à vous ajouter, s'il vous plaît. Comme vous savez que j'aime beaucoup de la culture berbère, la culture kabyle, j'ai une petite jeune fille qui fait une adaptation de Céline en berbère. Elle s'appelle Rasia Assoum.
Oui.
Je crois qu'elle se bat pour essayer de faire un disque. Rasia Assoum.
On va se voir avec Ali, on va se voir tous ensemble et on va essayer de tout faire de notre possible pour lui donner le rayonnement qu'elle mérite.
Certainement. C'est ma façon de dire le show must go on pour l'honneur de Johnny ce soir. Je suis en concert ce soir, je parlerai de lui. Et il faut que la chanson continue, elle peut continuer à travers dans nos mémoires pendant longtemps encore.
Merci, voilà. Merci Hugues, merci. On vous embrasse merci. Très très fort et à très bientôt, merci.
Au revoir. Au revoir.
Ali, c'est ce témoignage d'Hugo Frey nous donne un peu la chair de poule.
Hugo
Frey est quelqu'un de très très grand aussi, il est modeste, mais bon, nous, c'est aussi le patrimoine, et lui, il a écrit ses chansons, et c'est Bob Dylan, et c'est beaucoup de choses.
C'est
un monument de la culture française.
Ouais.
Donc, ça vous inspire votre réaction par rapport à ce qu'a dit Hugo Frey?
J'ai bien aimé parce qu'il aussi il est tempéré, il a pas envie de d'utiliser les gros mots, etc. Il voulait quand même situer les choses à leur place, et ça je trouve que c'est très bien, surtout dans des moments comme ça où il y a quand même une sorte d'effervescence, etc. Parce que c'est vrai que Victor Hugo, Johnny Hallyday, c'est pas la même chose, et c'est pas à l'honneur de Johnny non plus de faire des comparaisons un peu de ce genre. Donc je trouve vraiment très bien son témoignage, et ça m'a fait plaisir aussi d'être là et de l'entendre parler, en quelque sorte de nous rencontrer,
via les ondes.
Via les ondes, voilà, exactement.
On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Cette volonté de prolonger la nuit, ce désir fou de vivre une autre vie, ce rêve en nous avec ses mots à lui, quelque chose de Tennessee, cette force qui nous pousse vers l'infini. Il y a peu d'amour avec tellement d'envie, si peu d'amour avec tellement de bruit. Quelque chose en nous de Tennessee. Ainsi vivait Tennessee, le cœur en fièvre et le corps démoli, avec cette formidable envie de vie. Ce rêve en nous, c'était son cri à lui. Quelque chose de Tennessee. Comme une étoile qui s'éteint dans la nuit, à l'heure où d'autres s'aiment à la folie, sans un éclat de voix et sans un bruit, sans un seul amour, sans un seul ami, ainsi disparu Tennessee. Certaines heures de la nuit, quand le cœur de la ville s'est endormi, il flotte un sentiment comme une envie. Oh, ce rêve en nous avec ses mots à lui, quelque chose de Tennessee.
Retrouvez les grands témoins tous les dimanches de 17h à 18h sur Beurre FM. Les grands témoins avec Nasser Khétan sur Beurre FM.
Ali Amra, notre grand témoin d'aujourd'hui. Donc, on a entendu Hugo Frère rendre hommage à Johnny Hallyday, qui vous avez parlé d'éternité. En Algérie, on a ce genre de rapport aux chanteurs quand ils disparaissent. On a tous en tête, par exemple, de façon très très récente, la disparition de Matou Lounès, tragique bien ouais. sûr, dont on va fêter le 20e anniversaire de la disparition, déjà, ça passe tellement vite. Quel rapport en Algérie vis-à-vis de l'artiste vivant ou décédé?
Ah, je pense que le rapport il doit être quand même assez différent, hein, parce que bon, en gros, la différence déjà entre les sociétés un peu plutôt à base de culture orale et de culture sculpturaire comme la France. Donc, en Kabylie, c'était les porte-parole de la communauté, les chanteurs, enfin les poètes, parce que c'était plutôt des poètes que des chanteurs.
De la culture, de la langue.
Oui, et puis ça faisait partie un peu de la vie quotidienne de la société, et ça faisait un peu partie aussi d'une sorte, même de la vie, on peut dire entre guillemets, politique, parce que les grands poètes comme Yusuf Oukassi notamment, c'était les porte-parole de leur communauté, c'était un peu les ambassadeurs, c'est eux qu'on envoyait pour aller voir l'autre tribu et discuter avec les responsables, etc. Donc c'est quand même une catégorie un peu à part dans la société. Après, c'est vrai que parfois, on se dit oui quand le gars a assez de ressources pour avoir sa place, parce que d'autre part, les chanteurs, c'est un peu quand même pas très bien considéré dans la société traditionnelle. On se dit, ouais, c'est un peu la dérive, c'est pas des gens sérieux, voilà, chanter, danser, etc. Ça, c'est... Bah, après, il y a des moments où on accepte ça, les moments de fête, des moments de, voilà, de des occasions comme ça pour faire la fête. Mais après, bon, on peut pas prendre ça trop sérieux. C'est la différence, en gros, entre les poètes, on va dire comme ça, et genre les troubadours, enfin les tambourineurs, là, Yves Bellen, par exemple. Yves Bellen, ils n'ont pas beaucoup de considération dans la société traditionnelle. Quelqu'un qui, c'était difficile, voilà, pour quelqu'un de marier, de donner sa fille à un rebelle, quoi.
Mais moi, je suis aussi... comment dire, devant le chanteur incarne à la fois la tradition et la modernité. C'est-à-dire que la tradition dans laquelle les repères de la société kabyle, algérienne, kabyle en particulier, berbère, les gens se retrouvent, mais aussi une forme de modernité. C'est-à-dire que il est aussi transgressif, souvent par exemple sur l'amour, sur l'exil, sur la politique. Il est à la fois, par rapport aux citoyens, il incarne un peu ces deux aspects.
Ouais, c'est vrai. Alors, c'est vrai, après, si on prend... Ça dépend un peu aussi. Si on prend les deux grands poètes, disons, qui sont restés un peu dans la mémoire collective, notre Youssef Oukassi dont je parlais, et Simon Hamhand, c'est un peu les deux images, quoi. Oukassi qui est plutôt celui qui véhiculait les valeurs de la communauté, de la tribu, et Simon Hamhand, c'était exactement le contraire. C'est celui qui a transgressé et qui voulait, voilà, aller vers autre chose. Donc il y a ces deux aspects là. Dans ce cas, c'est un peu, ils sont incarnés par des personnages différents, mais ils se retrouvent aussi parfois dans le même personnage, parce que il y a quand même c'est de la création, l'artistique. Donc on fait des choses, on transgresse en créant, c'est normal. Mais en même temps, pour avoir un peu la reconnaissance, ou je ne sais comment dire, pour être accepté, ben, on véhicule aussi les valeurs collectives.
Et l'imagerie populaire, souvent investi dans un chanteur pour faire reconnaître sa culture, sa langue. Est-ce que le chanteur ou l'artiste est prisonnier de cette relation avec, je dirais, le citoyen, ou alors est-ce que aussi il est capable de se libérer, de se libérer, de dire je suis. Moi, je pense à vous particulièrement, Ali Imran. Vous avez cette capacité d'incarner à la fois la tradition, la jeunesse, par vos courants musicaux. Vous faites une synthèse à la fois des sons traditionnels et des instruments modernes. Et est-ce que je suis surpris, moi, c'est quelque chose qui m'a épaté dans vos concerts. Même des gens qui traditionnellement sont dans des concerts plutôt orthodoxes musicalement, shabi, musique kabyle traditionnelle, sont là et vous applaudissent. C'est-à-dire que vous arrivez à fédérer et à les rassembler. Est-ce que l'artiste peut s'émanciper de codes dans lesquels, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, on l'imagerie populaire veut l'enfermer aussi? Tu dois être ça.
C'est vrai que
tu dois chanter comme ça. Tu dois être ça, etc.
Ça, c'est problématique.
C'est
compliqué,
hein?
Parce que au fur et à mesure qu'on reconnaît quelqu'un, on a tendance à exiger un peu de lui aussi, de suivre un peu, de faire un peu dans le sens de ce qu'on pense. C'est assez c'est problématique. Mais en ce qui me concerne, si tu veux, dans la démarche, j'ai essayé de faire le lien entre le gamin que j'étais, fils de la montagne, qui écoutait de la musique traditionnelle dans les fêtes et à la radio, et après celui que je suis devenu un peu à partir du lycée, voilà, en lisant des livres d'autres cultures, en écoutant de la musique qui venait d'ailleurs, etc. Et comme c'est pas exactement la même chose, il fallait j'avais pas envie d'opter pour un côté, parce que ça fait partie de moi, de ma vie. Donc j'ai essayé de faire le lien entre ces deux grandes tendance, on va dire, culturelle comme ça qui était en moi à certains moments de ma vie. Et après, c'est vrai que je pense que dans la chanson, par exemple, ce qui est vraiment le où on peut dire qui est le plus authentique, même si c'est entre guillemets, il y a des choses qu'on ressent en tant que Kabyle dans des chansons parce que on a un peu, on est habitué, ou je ne sais pas comment dire, on a une sensibilité particulière. C'est plus par rapport à la mélodie, au texte qui est fait aussi en Kabyle. Après, bon, Chabé, c'est pour moi, c'est un mode musical, c'est un mode d'arrangement qui est arrivé à un certain moment à être mis en place. Ça fait pas très très longtemps, hein. C'était dans, ça a commencé dans les années 30, 40, Haji Mohamed El Alqa et tout ça. Donc, il y a plus profond que ça. Ça, c'est par rapport au contexte, c'est par rapport aux instruments qui arrivent à ce moment-là, c'est par rapport au mode, etc. Donc, le plus profond, pour moi, c'est plus la mélodie, le texte, éventuellement la façon d'interpréter aussi. Et donc, que ça soit dans le shabby ou dans le rock, il y a toujours ça. Et si on préserve ça, on peut faire le lien.
Et vous essayez aussi de comment dire, de retourner aux sources. Et par exemple, il y a un chanteur qui s'appelle Bush Gordon,
ouais,
que pratiquement pas grand monde connaît, et il se trouve que vous allez le chercher et vous déterrez un petit peu, entre guillemets, bien sûr, ses œuvres, et vous en faites des chansons extraordinaires. Bush Gordon, c'est qui, c'est quoi pour vous?
Cheikh Bush Gordon, c'est assez paradoxal, mais c'est un grand artiste, un grand chanteur chabi qui a vraiment marqué et a eu de l'influence sur les artistes qui ont fait du shabby après lui. C'est-à-dire que en gros, lui, Cheikh Lasnaoui, bon, Slimane Azem un peu dans un autre genre, c'est quelqu'un qui a été très très important, qui a eu beaucoup d'influence, notamment sur un artiste comme Matou Blounès. Et paradoxalement, il n'est pas vraiment connu. Et aussi, ce qui est vraiment...
Moi, je ne le connaissais pas avant de vous entendre le chanter.
Ah, c'est vrai. Eh ben voilà. Et ce qui est aussi impressionnant chez lui, c'est que c'est quelqu'un qui n'a pas été très prolifique. Il avait fait 11, 12, 10 à 12 chansons. Eh ben, c'est devenu des standards, quoi. Tous ces morceaux ont été repris par les gens qui font les artistes qui jouent du shabby. Donc il a eu une grande influence, mais c'est vrai que voilà, il était pas, le nom n'était pas très très connu. Sinon Anfas Place Pigal Hakim Flas, tout le monde la connaît, mais on sait pas exactement qui a chanté ça. Donc c'est vraiment un grand artiste. Je voulais lui rendre hommage justement parce que voilà, il n'était pas voilà aussi connu que ça, notamment de la nouvelle génération, mais qu'il avait fait un travail de très grande qualité. Et puis aussi, c'était une façon de tester un peu une approche par rapport à cette musique traditionnelle qui est cataloguée chez Abi et qui doit rester donc dans ce carcan. Donc j'ai repris des morceaux de Chabi confirmés, comme Khalil Wizgan, comme Hassan Tavalist aussi, et que j'ai travaillé d'une autre manière avec voilà ma façon un peu dans le l'univers voilà les sons rock etc pour essayer voilà de redonner de la jeunesse, mais aussi une approche différente par rapport à l'arrangement.
Mais et de ce point de vue, vous partagez quand même un courant que vous avez initié avec d'autres. Il y a beaucoup de jeunes groupes, de jeunes chanteurs qui restituent les anciennes chansons de Hasnaoui, Sliman Hazem, de Hassan, etc., et qui les restituent avec des formes modernes, avec sous forme de rap, sous forme de R&B, sous forme de jazz, etc. Et ça passe. On a des textes qui remontent à des décennies et des décennies, et aujourd'hui c'est du rap, c'est du jazz, ça veut dire quoi ça?
Bah, je pense qu'une chanson quand elle est à la base bien faite, après on peut la décliner un peu dans tous les sens. Ça c'est, et après c'est vrai qu'il y a des surprises, genre je parlais de Thavelist de Hassan. C'est quand même quelque chose d'avoir un morceau des années 50 en Kabyle dans le genre Chabi, mais parler. La musique parlée en Occident, c'est le hip-hop, enfin c'est le rap qui est arrivé, ça fait pas très longtemps, quoi.
Bien sûr.
Eh ben, dans Thavelist, Hassan, Il parlait, au lieu de chanter les couplets, il parlait et il faisait juste le refrain. C'est un peu la structure un peu du rap. C'est impressionnant. Moi, ça m'avait touché de découvrir ça, de dire que voilà, il y a eu ça finalement dans les anciens contes, dans la chanson Kabyle.
Le grand témoin aujourd'hui, Ali Amran, on se retrouve dans un instant.
ورفرينت استجديدين تفرنت ذيكي ليلة تقبوينت في الزهرة نغيثت سنت ذا شادة تزكاون السوثوين دي تسلالن شغل ميثي دنباون هذ يفعان تنظن نكث ذا نرنو ذا انث الزيد ذي الماوانا بعد نسولي أسمين تسلم في مسال يلوى حسبي في غلي لكنه تسولال ذا شدي خذني يلني يثرقي لو مرث مال سوشن قابل الشفوة في موشو هسوس منت أم حياث حمو تسيار ما في عمر شقنت من روحا نخيض ثما سنا ثاد قرصنت
tous les dimanches de 17h à 18h sur Beurre FM. Les grands témoins avec Nasser Khétan sur Beurre FM.
Grand témoin aujourd'hui, Ali Amran. Ali Amran, qu'on présente plus. Hein, Ali, le chanteur kabyle, longtemps a été un éclaireur et un pionnier. Du point de vue de la culture berbère, mais on l'a aussi cantonné de façon politique dans une espèce de folklore. Disons que sur le plan politique, on a voulu en faire un folklore, alors que lui, il incarnait une forme universelle d'expression, de liberté. Ça a changé, ça a pas changé.
Si ça a changé, je ne saurais dire. En tout cas, la tendance elle est plutôt à, ouais, on est toujours dans la folklorisation, hein, on est encore dans les histoires de dire voilà, ça a existé, ouais, on le reconnaît, c'est à nous, mais bon, voilà.
Ah, on a des chansons kabyles qui sont traduites en arabe ou en français, comme Zwitserwit, comme Vavainouva, comme des chansons de Matoulounès aussi qui sont. On a une espèce de forme de reconnaissance entre guillemets d'autres langues. Mais on a le sentiment que les Kabyles chantent pour les Kabyles et que tant que c'est du folklore, c'est bien, mais dès que ça commence à prendre des chemins un peu différents, il faut réprimer.
Bah parce qu'il y a de la politique aussi qui se mélange avec ça, donc c'est vrai, mais c'est ça qui donne le côté folklore, c'est pas un problème. Il y a du folklore aussi, hein. Il y a du folklore, c'est pas un souci. Mais par contre, il faut aussi qu'il y ait, un travail culturel, une épaisseur, et qu'il y ait une vision, qui soit, qui aille plus loin que ça. Et ça, c'est vrai que beaucoup d'artistes, quand même, c'est avec ça que la langue a quand même réussi à vivre, hein, parce que c'est une langue orale qui n'était pas enseignée. Maintenant, ça commence à être enseigné un petit peu à l'école, mais il y avait que ça. C'était l'artiste, c'était tout en quelque sorte. Le chanteur, c'est lui qui crée, qui travaille la langue, parce que pour que la langue vive, il faut qu'elle soit travaillée, qu'elle soit utilisée. Donc elle est chantée, et puis qui ramène aussi des idées, qui essaye de trouver le moyen de les exprimer par la langue maternelle. Donc c'est parce que c'est vrai, il y avait pas d'écrivain. Maintenant, il commence à y en avoir aussi. C'est quelque chose de nouveau parce qu'on passe d'une culture orale à une culture écrite. Mais c'est des choses qui prennent énormément de temps pour commencer à habituer les gens à passer à l'écriture. Donc c'est vrai que les poètes et les chanteurs, c'est eux qui travaillent la langue et c'est eux qui quand il y a quelque chose universel comme ça, d'intégrer des idées qui viennent d'ailleurs, ça passait plutôt par eux, hein. Il y a qu'à écouter, je sais pas, des gens comme Slimane Azem, qui parlent Zikarus américain, Toernenad chinois, etc., qui étaient quand même, donc à l'affût et puis à l'écoute du monde et des rapports un peu politiques qu'il y avait à ce moment-là. Donc, c'est...
Alors, quand on écoute, quand on lit des poèmes de Sheikh Mohammed Mohamed ou de Sheikh Mohammed Hussein ou même quand on entend Slimane Azem, Hassisen, même Bouzgaren que vous reprenez, on a des formes de discours, des formes de pensée, des formes de réflexion qui n'ont rien à envier à Socrate, à Confucius ou à Jean-Jacques Rousseau. Pourquoi cette reconnaissance ne se fait pas? On a des textes qui sont d'une portée universelle et on les cantonne dans une espèce de folklore, dans ce que ça a de plus violent, à savoir un exotisme qui n'est là que parce que on veut bien le tolérer. Pourquoi cette dimension universelle, philosophique, culturelle n'arrive pas à s'imposer? Parce qu'il y a obstruction, il y a violence.
Bah oui, qu'il y a obstruction. Il y a eu obstruction physique. Hein. À certains moments, des gens étaient emprisonnés, assassinés parce qu'ils défendaient cette culture et cette langue. Et voilà.
À un moment donné, on allait en prison parce qu'on avait un alphabet tifinard dans la poche.
Voilà. Donc l'obstruction, il y a pas de doute là-dessus. Hein. Après, va savoir hein, sur le long cours comme ça, comment des sociétés, par rapport au contexte dans lequel elles vivent et par rapport justement à cette obstruction dont on parle et à l'oppression et à cette idée de dire aux gens vous ne valez rien, votre culture c'est du folklore, c'est des choses qu'on peut mettre dans le musée mais pas plus, et donc d'une certaine manière on intériorise aussi ça. Et donc on donne parfois, on donne pas la dimension requise à des idées qui sont à nous, parce qu'elles sont à nous, donc on a l'impression qu'elles sont pas importantes. C'est très compliqué. Et puis il y a eu quand même des gens qui ont travaillé, qui ont fait en sorte à ce que, quand on voit par exemple le travail de Mouloud Mamri par rapport au poète onsien, hein, par rapport à la dimension qu'il donne à des mots, à des vers, à des idées qui étaient exprimées à ce moment-là, on se dit il y avait quand même une pensée, il y a un petit problème un peu dans toutes les sociétés comme ça que opprimées il y a un mot qui a été un peu créé par les Catalans, je crois, sur le plan linguistique, la auto-audit, c'est un peu une sorte de haine de soi, c'est-à-dire qu'on est plus confiant, on est plus sûr de ce qu'on est, et après, voilà, on croit que ce qui vient d'ailleurs est toujours plus important que ce que on peut apporter.
Alors, une des qualités, on a parlé du texte, de la langue amazigh, on a parlé de son texte, de sa signification, de sa réflexion, de sa portée universelle, mais aussi cette langue, elle s'accommode très bien de tons et de modes musicaux qui peuvent aller du jazz au country, en passant par le folk, le shabi ou le classique ou l'opéra. Donc là, j'ai écouté de l'opéra en kabyle, j'ai écouté du shabi en kabyle, j'ai écouté du jazz en kabyle. C'est une langue qui s'accommode de tous les tons et de toutes les ça fait peur aussi, vous pensez? Ou c'est une richesse, j'imagine.
Bah pour la langue, c'est une richesse. Hein. Moi, je suis impressionné quand même. Je travaille avec des gens, voilà, qui comprennent pas le kabyle, qui n'y connaissent pas. Enfin, ni le berbère, ni le kabyle, ni. Et ça m'impressionne parfois quand ils me disent, mais c'est très joli, mais c'est poétique. Voilà, il y a des gens avec qui je travaille qui me disent, mais c'est poétique. Je dis, ah bon? Parce qu'ils comprennent pas ce que je dis. Mais les sons, la façon comment on chante, etc. Ça a quelque chose, la langue kabyle, et c'est une langue qui est, comment dire, qui s'apprête à
des modes musicaux.
À la chanson, voilà, à être portée par une mélodie, c'est une grande richesse, évidemment.
Alors, pour aborder peut-être une discussion un peu plus académique, je dirais, aujourd'hui, tamazight, qui est la langue est reconnue dans beaucoup de pays comme langue à la fois nationale et officielle. Hein. On rappelle quand même que c'est une langue qui va des Canaries jusqu'en Égypte, à la presqu'île de Siwa, et qui s'étend du nord de l'Afrique jusqu'au Nigeria, et que c'est une langue qui recouvre différentes populations. Hein. Pour revenir à l'Algérie, elle est reconnue comme langue officielle. Ça, pour vous, c'est réglé les choses ou vous pensez que c'est...
J'allais dire officiellement, elle est reconnue comme langue nationale et officielle, mais ça reste sur du papier. C'est pas le papier qui fait avancer les choses. Il faut que
récemment, je crois qu'il y a eu une proposition d'un parti politique, celui de Louza Hanoun, qui a proposé que ce soit étendu aux 30 wilayas, parce que je crois que c'est dans 20 départements, hein, la wilaya c'est le département, pour que ce soit au niveau national. Et je crois qu'il y a eu un blocus de la majorité, à savoir FLN et RND, qui a dit non, pas question, pas pour le moment. Donc, pour l'instant, c'est cantonné dans des wilayas berbérophones. Et même les budgets, semblerait-il, sont
un peu... Je pense que c'était surtout sur ce point, sur les budgets, parce qu'il faut des sous. C'est une culture qui a été quand même réprimée et dont on a voulu la disparition. Il faut que les gens se souviennent.
On se serait attendu quand même à autre chose, c'est-à-dire à une dimension... je veux dire, en disant, voilà, c'est une langue officielle, maintenant on va mettre le paquet et on va restaurer l'identité longtemps bafouée, etc. On s'attendait à quelque chose de plus fort.
Ça avec fierté, d'avoir vraiment une volonté politique et d'être sincère par rapport à ce qui a été décrété officiellement dans la Constitution. Mais évidemment que c'était un peu des équilibres, des rapports de force, etc., qui ont fait que on se retrouve avec deux langues officielles, mais dont l'une est plus officielle que l'autre, c'est-à-dire que la langue de l'État, c'est l'arabe. Donc ça reste l'arabe. Et la langue berbère est aussi une langue officielle, mais elle n'est pas la langue de l'État. C'est des contradictions, je veux dire, c'est aberrant. Mais voilà, ça a donné des choses comme ça. Maintenant, il faut toujours essayer d'avancer de toutes les manières, de mon point de vue à moi. La langue, pour qu'elle reste vivante, il faut qu'elle soit portée par ses locuteurs, par les gens qui créent dans cette langue, etc. Et après, évidemment, sur le plan politique, il faut quand même continuer à lutter, mais normalement, enfin, c'est les acteurs politiques qui devraient travailler sur ce terrain-là pour avoir, évidemment, les moyens, les budgets et des échéances, parce que c'est quoi? Elle est officielle. Il faut des échéances. Il faut dire que à tel moment on va faire cette chose-là et qu'il y a les moyens pour faire cette chose-là. Et Voilà, donc c'est assez, c'est-à-dire qu'il y a quand même c'est à double tranchant d'une certaine manière, parce qu'aujourd'hui l'État il dit que la langue, c'est le problème de la langue berbère est réglé parce que elle est nationale et officielle, donc il se l'approprie d'une certaine manière. C'est à nous de faire en sorte, voilà, que ça se développe. Mais dans la réalité, il fait rien l'État sur ce plan. Où il fait le vrai strict minimum. Donc il faut pas croire que maintenant que c'est décrété comme ça, national et officiel, le combat est terminé. C'est au contraire, c'est maintenant que ça doit redoubler d'efforts et de pousser aussi à ce que ça se concrétise, que ça ne soit pas juste sur du papier.
Alors on revient à Ali Amral pour conclure. L'actualité d'Ali Amral, c'est un nouveau disque bientôt ?
Oui, un nouveau disque que je suis en train de finir, dont on prévoit la sortie au printemps, on va dire peut-être fin avril, enfin au mois d'avril. Et puis un concert aussi qui arrive là, le 13 janvier à Saint-Denis. Comment s'appelle la salle, la Légion d'honneur, c'est pour célébrer Nayar, donc voilà, c'est les plus proches.
Du cinéma, du théâtre, parce que je sais que vous avez joué aussi au cinéma dans Feldman Summer.
J'ai fait une expérience, j'ai joué dans Feldman Summer, ça m'a, c'était une expérience.
Il y a des propositions, il y a des choses en.
Ouais, parfois il y a des propositions. Il y a des propositions, mais à vrai dire, c'est pas, je veux dire, je le fais quand vraiment. C'est quelque chose qui me parle, qui me touche, et, parce que c'est pas ma priorité. Je suis je suis chanteur, je suis auteur-compositeur.
Surtout auteur-compositeur-interprète,
c'est ça,
ce qui est quand
ça.
Même énorme.
Ouais,
hein. On m'a rendu hommage à Johnny Hallyday en début de d'émission, qui était surtout interprète. Vous avez choisi ce chemin. Vous créez vos textes, vous créez vos atmosphères.
Ouais. Je pense que, pour moi, c'est important tout ça. Enfin, c'est important d'écrire. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, quoi.
Et puis, vous aimez le partager quand vous êtes sur scène.
Évidemment, on le fait pour ça aussi.
Vous le rendez bien et vous le rendez bien à votre public.
Ah ouais.
Merci d'avoir été notre grand témoin aujourd'hui.
Merci
à très bientôt
pour l'invitation. Merci Nasser.
Retrouvez les grands témoins tous les dimanches de 17h à 18h sur Beurre FM.